yearning for wanting you. And if you would let them hold you, oh, how grateful I will be. These arms of mine, they are burning, burning for wanting you. These arms of mine, they are wanting.
So different and so new, was like any other until I kiss you.
I'm going to leave you with this one. It's all about next 6 a.m. Same time. Positive vibe. Keep it alive. 9.3 FM. Roger Moore. I want to respect each and every one.
By the look in your eyes, sweeter than wine, softer than the summer night. Everything I want, I have. Whenever I hold you tight, this magic moment.
Sécurité, les vibrations de la communauté. Sécurité FM 90.3.
Bonjour et bienvenue à votre émission La Voix des Immigrants. Je suis Moukala, comme à la Messeud, et votre animatrice pour l'émission d'aujourd'hui. Aujourd'hui, à l'ordre du jour, nous parlerons de la situation des peuples autochtones et de la loi sur les Indiens. Je voulais parler du sujet parce que on en parle beaucoup. Puis j'ai pu lire surtout sur la loi sur les Indiens. Donc en lisant sur le sujet, finalement j'ai trouvé intéressant de vous en parler. C'est une émission qui va durer comme à l'habitude 60 minutes. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va aborder avec vous un document écrit par la Commission des droits de la personne et de la jeunesse. Un document écrit par Pierre Lepage, et puis par la suite, on va écouter ensemble une vidéo, un reportage d'à peu près 30 minutes. En fait, le reportage dure une heure et demie, c'est un webinaire en fait qui a été tourné, un webinaire d'Amnesty International, et je vous présenterai à peu près les 30 premières minutes de ce reportage. Puis, en fait, ce sont les femmes autochtones qui parlent donc de la loi là, sur les Indiens. Donc, on se laisse pour une brève petite pause. Je n'ai pas de manchette aujourd'hui. Je le trouvais peu pertinent, en fait. Est-ce que j'ai quelque chose à vous dire? Non. Donc, je trouvais peu pertinent de parler d'une manchette particulière aujourd'hui. Je trouvais plutôt pertinent de parler, d'aborder davantage sur le sujet donc, des peuples autochtones et surtout sur la loi sur les Indiens. On se retrouve donc dans quelques instants.
CKUT 90.3 FM, Montréal.
Ici Martin Carlier, vulgarisateur scientifique. La vaccination des 5 à 11 ans contre la COVID-19 est commencée. En tant que parent, vous vous demandez peut-être si le vaccin est sécuritaire et efficace. La réponse est oui. Le vaccin est approuvé par Santé Canada et a fait l'objet d'études de qualité portant sur des milliers de personnes, dont des jeunes. Des experts suivent aussi de très près toute manifestation indésirable qui pourrait survenir après la vaccination.
Pour plus d'informations, rendez-vous sur québec.ca/vaccinjeunes. Un message du gouvernement du Québec.
Me revoilà au micro. Je disais que je n'avais pas de manchette pour vous aujourd'hui, mais j'aimerais souligner avec vous un événement. Un événement, c'est un grand mot, mais le 25e anniversaire de la loi sur l'équité salariale. Donc, consultez le site web de la Commission des normes de l'équité et de la santé et sécurité. Et vous verrez qu'il y a 25 ans maintenant a été adoptée au Québec la loi sur l'équité salariale. Et la loi sur l'équité salariale permet de ramener la pleine valeur du travail féminin. Et à la Commission, existe une stratégie visant les travailleuses non syndiquées. Vous pouvez consulter les déclinants. La stratégie était publique il y a un certain temps. Et donc, la stratégie vise à faire en sorte que les travailleuses non syndiquées aient accès donc, à une rémunération équitable. Et chez les travailleuses non syndiquées, vous avez une bonne proportion, bien évidemment, de personnes, de travailleuses ici de l'immigration. Donc, je trouve pertinent de s'intéresser au sujet, de s'intéresser à l'équité salariale. C'est une façon donc, d'être mieux rémunérée. C'est une question de respect de sa dignité également. Puis, clairement, l'équité salariale, en fait, fait en sorte qu'on vienne réduire la pauvreté là, chez les femmes. Vous verrez un peu sur le sujet, vous verrez là, que... Il y a toute une histoire derrière l'adoption de la loi sur l'équité salariale. Et entre autres, donc, on parlait, donc, en fait, une des revendications ayant amené l'idée là, d'adopter une loi sur l'équité salariale et la pauvreté plus grande chez les femmes. Et donc, voilà. Et nécessairement, chez les travailleuses, ici, l'immigration, cette pauvreté est double. Donc, c'est pertinent, ça vaut la peine de lire sur le sujet. Ça vaut la peine de demander, de s'informer. Il y a des formations disponibles en lien avec l'équité salariale. Puis, ça vaut la peine donc, de veiller à suivre la formation pour réclamer donc, une rémunération équitable à son employeur. Donc, voilà, petit aparté. Pour notre sujet du jour, donc, la situation des peuples autochtones, comme je vous disais, j'ai peu lu sur le sujet et puis beaucoup parlent donc de la loi sur les Indiens et puis de toutes les controverses reliées à cette loi. Et donc, hier, tentant de penser un sujet pour aujourd'hui, je suis tombée sur un article donc, en lien avec la loi sur les peuples autochtones. Et voilà. Donc... comme je le mentionnais également, donc j'ai consulté un document écrit par la Commission des droits de la personne et de la jeunesse. Le titre du document, c'est « Mythes et réalités sur les peuples autochtones ». Un document de 2019, donc quand même d'actualité, et écrit par Pierre Lepage. J'ai tenté de découvrir qui était Pierre Lepage. Là, je crois qu'il a travaillé à la Commission des droits de la personne, bref. Voilà, puis dernièrement a eu lieu la journée commémorative, en fait la journée nationale sur la vérité et la réconciliation entre les Premières Nations et bon, la communauté québécoise, ou bref, les gens de souche en fait, c'est peut-être pas le bon terme en fait, non? Et donc, le 30 septembre dernier, et donc, je pense que c'est pertinent qu'on fasse le point, qu'on discute sur la situation des Autochtones, qu'on casse un peu là, tous les préjugés que l'on a envers les Autochtones. Donc, je vous résume rapidement le document. Où se situe donc la vérité? Donc, il y a plusieurs pages, un document de 180 pages, plusieurs chapitres, chapitre 6, page 77 en fait. Donc, je vous résume ce chapitre. Où se situe donc la vérité? Donc, on mentionne, bon, est-ce que les Autochtones jouiraient d'un traitement de faveur? Seraient-ils privilégiés, aussi privilégiés qu'on le prétend? Et aurait-il plus de droits que la majorité des citoyens, donc citoyens québécois? Reçoivent-ils un chèque tous les mois, une prestation d'indien en quelque sorte? Et combien coûtent ces autochtones, supposément, donc aux contribuables québécois et canadiens? Donc, le document dit que l'idée que les autochtones sont comblés de privilèges est très fortement répandu, puis je pense que c'est le cas, on pense tous que les Autochtones reçoivent, en fait, c'est pas qu'ils reçoivent un chèque, mais qu'ils ne paient pas de taxes. Bon. Bref. Et bon, voilà, parce qu'ils sont de Première Nation, ils ont droit à certains privilèges. Également, donc, C'est ça. Il y a une croyance profondément ancrée qui veut en sorte, là, qui dit que ben, les peuples autochtones reçoivent une fois par mois, donc un chèque du gouvernement fédéral, une forme de prestation d'indien. Bref, ce que le document, en fait, ce que la Commission des droits de la personne dit, puis c'est intéressant de savoir que c'est la Commission des droits de la personne, donc qui, puis on va le voir plus loin, au fond, elle se positionne, en fait, et elle dit clairement que les Autochtones sont des gens discriminés, que le gouvernement, bref, d'une certaine façon, n'agit pas, ne travaille pas assez en faveur des peuples autochtones. Donc, elle se positionne, oui, contre des actions gouvernementales. Donc, ce que la commission dit, c'est que voilà, tous ces préjugés, toutes ces idées que l'on a envers la situation, en fait, les privilèges qu'auraient les peuples autochtones sont faux. Préjugés faux ou croyances fausses. La réalité est la suivante. Donc, les personnes qui ont droit, en fait, les peuples autochtones sont en fait traités comme les citoyens québécois, normaux et canadiens. Donc, on a donc des personnes qui ont droit à de l'assurance emploi et qui vont recevoir donc de l'assurance emploi, des personnes démunies qui vont recevoir une prestation mensuelle d'aide sociale conforme aux normes en vigueur. Donc, pour l'ensemble, les normes qui valent pour les citoyens québécois. Les personnes autochtones donc, qui travaillent ou celles qui sont à la retraite vont recevoir les sommes auxquelles elles ont droit. Un point, c'est tout. Donc, on comprend qu'il n'y a pas de privilège relié au fait d'être indien. Il n'y a pas de prestation d'indien. Donc, les personnes autochtones ne sont pas plus riches que les citoyens québécois et canadiens. Au contraire, la réalité de ces peuples, elle est tout autre. Hein. Donc, ce qu'on dit, c'est que la majorité des communautés autochtones vivent, puis c'est un peu ce que disait le ministre québécois responsable des affaires autochtones en 1991, c'est que au niveau des communautés autochtones, on parle de sous-développement. Donc, dans presque tous les secteurs, qui fait en sorte que les conditions de vie de ces communautés sont... Il y a beaucoup de travail à faire, si je pourrais dire. Donc, est-ce que les Autochtones coûtent cher aux contribuables québécois? Non, ce ne sont pas les Autochtones qui coûtent cher aux contribuables québécois, mais bien la situation déplorable et la marginalité économique dans laquelle se trouve la majorité de leur communauté qui coûte cher. Donc, tel que le confirmait la Commission royale sur les peuples autochtones dans un rapport rendu public en 1996. Les services dispensés par les différents niveaux de gouvernement aux Autochtones coûtent plus cher en comparaison aux services dispensés à l'ensemble des Québécois et des Canadiens. La Commission royale estimait que les dépenses publiques par habitant étaient plus élevées de 57% pour les Autochtones versus pour le résident canadien normal. Les peuples autochtones, on le sait, vivent beaucoup dans les situations, dans des régions éloignées au nord. Je ne sais pas si c'est vrai pour toutes les communautés. Hein. Il faudrait vérifier à quel point la majorité des peuples autochtones vivent dans le Grand Nord, bref. Donc, le coût de la vie dans ces régions isolées est démesurément élevé, donc de 25 à 100% supérieur à la moyenne canadienne. Ce coût élevé se répercute inévitablement sur les salaires et les allocations des fonctionnaires qui y travaillent. On parle de problèmes de santé chez les communautés autochtones, de difficultés d'ordre social et économique. On parle de criminalité, on va parler d'alcoolisme. Bon, est-ce que c'est toujours vrai? On ne sait pas, mais bref. Il y a différentes problématiques sociales vécues au niveau des communautés autochtones. Et puis, donc la Commission royale... on comprend que ça coûte cher, donc toutes ces problématiques sociales coûtent cher, parce qu'on tente de trouver une façon de régler ces problématiques. Mais cela ne signifie pas pour autant que les programmes destinés aux autochtones soient plus généreux que pour la population non autochtone, les programmes destinés aux Premières Nations sont non seulement sous-financés, mais ils sont également inférieurs aux normes en vigueur dans la plupart des provinces canadiennes. C'est notamment le cas pour le programme d'éducation, le programme de soutien à l'enfance et aux familles et le programme de logement social. Au plan international, l'ONU a maintes fois dénoncé au sein de ses instances justement ce sous-financement donc au niveau là, des communautés autochtones. En 2007, le Conseil en éducation des Premières Nations a lancé une vaste campagne de sensibilisation auprès de la population, justement pour dénoncer bien, ce sous-financement. Puis, en 2016, et ça fait pas très longtemps, donc ça fait 5 ans, l'ancien premier ministre du Canada, Paul Martin, a dénoncé lui également la situation, ce que l'on dit, c'est qu'il en a fait un combat personnel. Et donc, il soulignait que le gouvernement fédéral dépensait de 30 à 50% de moins par élève dans les 500 écoles, au niveau là, qu'on retrouve dans les réserves des Premières Nations, versus donc dans les écoles des autres provinces canadiennes. Pourtant, un consensus existe autour du fait que, ben voilà, ça coûte beaucoup plus cher, oui, mais on a besoin en fait là, d'aider les communautés autochtones, puis ça coûte plus cher, mais il y a des besoins effectivement peut-être plus importants en matière d'éducation spécialisée et surtout au niveau là, du recrutement et de la rétention d'enseignants qualifiés. En janvier 2016, le Tribunal canadien des droits de la personne a donné raison au ministre Paul Martin, a donné raison, on pourrait dire, donc, au Conseil en éducation des Premières Nations et a indiqué que, oui, les enfants autochtones qui vivent dans les réserves reçoivent des services d'aide à l'enfance qui sont inférieurs à ceux offerts au niveau là, des autres provinces canadiennes. Et voilà. Donc, on comprend que les peuples autochtones, ben, c'est ça. Ne vivent pas, ne sont pas privilégiés. Puis voilà, il y a encore beaucoup de problématiques à régler, beaucoup de travail à faire. Oui, ça coûte cher aux contribuables. Est-ce que ça coûte cher aux contribuables québécois? Ça coûte cher, mais voilà, c'est parce qu'il y a encore beaucoup de travail à faire. Et puis ça coûte pas au fond plus cher versus traiter, tenter de trouver une problématique pour une solution à des problématiques vécues en dehors, je dirais, là, des réserves aux communautés autochtones. Bref. Donc, voilà. Puis, parallèlement, donc, comme je le disais, j'ai lu là, sur la loi sur les Indiens, sur les polémiques sur le sujet, et donc, je suis tombée sur un reportage de femmes autochtones qui militent contre la loi sur les Indiens. Vous pourrez aller lire sur le sujet, c'est très intéressant. On comprend que voilà, on a un peu dénigré l'Indien quand a été adoptée cette loi. Si vous lisez, sur le tout, on parle de personnes mentalement incapables. Dans la loi actuelle, donc hier, je consultais un peu là, puis dans la loi en vigueur actuellement, on parle de personnes mentalement incapables. Et puis, ce qu'on comprend, c'est qu'à l'époque, ces personnes étaient réellement considérées comme mentalement incapables. Voilà, donc ce qui fait aucun sens à mes yeux. Et donc, on va écouter ensemble le reportage de ces femmes autochtones militantes qui parlent donc, justement de la loi sur les Indiens, puis du fait au fond qu'elles devraient être... pas annulée, c'est pas le bon terme, hein, qu'elle devrait être retirée. D'ailleurs, le chef du Bloc québécois, son nom m'écarte, actuel, et vous irez voir sur YouTube, il y a un petit reportage sur YouTube, mais il indique qu'il veut lui faire annuler la loi sur les Indiens. Donc, parce que, ben voilà, c'est une loi qui serait dénigrante. Donc, on écoute ensemble un reportage présent sur YouTube. Comme je vous le disais, c'est un webinaire, en fait, d'une durée de 1 heure et à peu près 30 minutes. On n'aura pas le temps de l'écouter au grand complet. On va écouter ensemble, je dirais, 35 à 40 minutes. Et on se retrouve donc après pour la fin de l'émission.
Donc, évidemment, tout est en lien. Nous, nous travaillons quand même en partenariat avec Amnesty International francophone à passer à l'action dû aux récents événements, dont la mort de Joyce Echaquan, évidemment, qui révèle toutes les formes de discrimination vécues par les femmes autochtones. On parle de discrimination systémique, de racisme systémique, parce qu'elles sont... Évidemment, parce qu'on est des femmes et parce qu'on est autochtone, on parle de double discrimination. Et comme on a pu le voir avec ce que le gouvernement du Québec est encore dans le déni, à dire que le racisme systémique est existant au Québec, Femmes autochtones du Québec n'a pas peur des mots. Donc, on dit et on le croit que le racisme et la discrimination systémique au Québec. Et je pense qu'on va être assez tenante sur ce point-là parce que notre plan d'action vous le dit assez bien. Évidemment, Femmes autochtones fait beaucoup de la défense des droits humains aussi. Donc, 47 ans d'existence, 47 ans de lutte, 47 ans de revendication, de dénonciation, d'action, etc. Je pense que c'est une belle organisation. Si Femmes autochtones du Québec est née aujourd'hui, c'est bien parce que des femmes telles que Mary Touax, telles que Jeannette Lavelle-Cormière, telles que Sharon McCarver, où est-ce qu'elles ont dénoncé que la discrimination était basée sur le genre. Donc, je pense que ça fait la naissance des groupes de femmes pour la défense de droits. Donc, Femmes autochtones du Québec, évidemment. C'est important aussi d'amener les activités en lien avec le racisme systémique. Femmes autochtones du Québec est beaucoup dans la lutte contre la discrimination basée sur le genre dans la loi sur les Indiens. On sait ce que la loi sur les Indiens a pu faire envers nous, les femmes autochtones. Juste un exemple que je vous donne et qu'on continue encore à dénoncer auprès du ministère des Affaires indiennes, c'est l'imposition de reconnaissance de paternité. Okay. On nous impose la reconnaissance de paternité parce que s'il n'y a pas de reconnaissance de paternité, nos enfants sont encore catégorisés. On a les 6.1, ce qui veut dire 6.1, l'enfant est né de deux parents autochtones, 6.2, un parent autochtone et un parent non autochtone. Ça a des impacts sur l'identité ou la prochaine génération. Donc, on dénonce justement cette forme d'imposition parce que ça a beaucoup d'impact. On appelle ça des stratégies d'assimilation. Et on est visé, nous les femmes, parce que nous, les femmes autochtones, dans notre responsabilité, on a cette responsabilité de transmettre la langue et la culture à nos enfants. Donc, les stratégies politiques, on le voit de loin et on le dénonce encore aujourd'hui. Ça fait quand même 2 ans que l'on travaille avec ces guerrières que vous allez entendre tout à l'heure. 2 ans de dur labeur à essayer d'avoir des ententes suite à la loi S3, okay, la loi C3. Et je crois qu'elles vont l'aborder ce soir. Je ne veux pas voler leur présentation, mais en même temps, on s'est ralliés, nous, parce que ça rejoint justement toutes les inégalités, la discrimination que nos femmes vivent et on lutte ensemble. Je pense que c'est plus on va lutter ensemble, mieux c'est encore et nos voix sont encore de plus en plus fortes. Donc, voilà en gros. Pour terminer, parce qu'on m'a dit que le timing est très, très déjà qu'on était en retard et on s'en excuse, Femmes autochtones du Québec est en train de travailler un plan d'action. Okay. Et ce plan d'action, c'est vraiment pour autonomiser les femmes dans ce qu'on a pu être témoin quand Joyce Echaquan a fait sa vidéo. Maintenant, ce qu'on veut donner aux femmes, c'est de les outiller au maximum que l'on peut. Ce qui veut dire à connaître leurs droits. On parle des droits humains, on parle des droits internationaux, on parle des droits de la personne. Donc, si, et je ne souhaite pas que ça se reproduise encore, mais si quelqu'un, toute femme qui peut revivre un moment comme Joyce a vécu, je pense que maintenant, on se donne le droit. le droit de dénoncer et le droit de porter plainte. Donc, nous travaillons un guide d'outils pour aider les femmes à lutter contre le racisme systémique et notre période de consultation, elle a déjà été faite avec nos membres. Maintenant, les balises sont construites et il nous reste vraiment à élaborer encore plus. Vous allez être quand même au courant parce que tous les instruments que l'on fait à Femmes autochtones du Québec sont toujours affichés dans notre site web. Évidemment, on a eu aussi le mandat par nos membres d'adopter le principe de Joyce. Je pense que le principe de Joyce demande à ce que toute personne, toute femme autochtone ou être humain, d'être reçue avec dignité. Je pense qu'on s'en va sur ce chemin. Et Femmes autochtones du Québec s'engage justement à être proactive dans le principe de Joyce tout en respectant justement la nation Atikamekw. Donc, je vous remercie. C'était un bref aperçu et j'ai très hâte d'entendre nos panélistes. Ce n'est que maintenant. Merci.
Merci. Merci, Viviane. Alors, maintenant, je vous présente notre première panéliste. Il s'agit de Jeannette Corbière-Lavelle, qui, depuis plus de 50 ans, défend des causes qui ont résonné partout au Canada et ailleurs. Elle est membre fondatrice et ancienne présidente de l'Association des femmes autochtones de l'Ontario. Elle a perdu son statut d'autochtone en vertu de l'article 12 de la Loi sur les Indiens lorsqu'elle a épousé son mari, non autochtone, en 1970. Elle a contesté cette décision en 1973 devant la Cour suprême du Canada sous le prétexte qu'il est établissait une discrimination fondée sur le sexe. Bien qu'elle ait échoué en cours, cet article de loi a finalement été annulé en 1985. Jeannette a plaidé pour les droits des femmes autochtones à l'Organisation des États américains, au Comité des droits de l'homme et au Comité pour mettre fin à la discrimination sexuelle des Nations unies et à la Commission interaméricaine des droits de l'homme. Sa passion pour l'éducation l'a amenée à travailler comme enseignante, directrice d'école et conseillère en éducation, et elle a siégé à de nombreux conseils et comités. Madame Corbière-Lavelle, à vous la parole.
Miigwech. Miigwechendam kinawayag gibibzindabwayag. Giwedna nung dishnikas nishnabe kwendal. Mino wikwam kong unceded territory in Donjaba. I'm just sharing my Anishinaabe name, which is Giwednung, which in Anishinaabemwin is North Star. And I'm from the Wikwamekong Unceded Territory on Manitoulin Island, Northern Ontario, Georgian Bay specifically. And as I look out the door here, it is spring. It was such a beautiful day. I hope you're all experiencing the same. Mm. What I would like to do today is just share, my experiences. And I believe Vivienne mentioned that it's 49 years for the Quebec Native women. For me, this all started 50 years ago. It started in 1970 when, I wouldn't say it's unfortunate because that's the year that I was married to David, and we have three beautiful children, many grandchildren. So, but the part that has been challenging and what has been pushing me to work towards the equality and to get rid of the gender-based discrimination in those laws that affect us as Anishinaabe people, specifically Anishinaabe women. Because prior to that, I had the full, prior to my marriage, I had full status within my community, and all my relatives are there, was born there. I have the language and this is where I belong. I can't think of any other place that would accept me, number one, but where I would feel comfortable. As Anishinaabe women, we are connected to the land And very specifically, we have our roles as women within our community, within our clans, and within our teachings, that if at all possible, that we must adhere to them and follow them. So all this I wasn't thinking about in 1970 when David and I were married. But it wasn't too long after that I realized, and it was brought up to me, that I got this letter in the mail that said, Jeanette Corbier, you are no longer a member of Wicomicon Unceded Reserve. And that was a shock. And I'm sure all of you would know how that feels if you're told that all of a sudden you're not part, you don't belong anymore to your family or to your community or to the place that you've always called home, where your ancestors are. I can go back many generations to my community and go up in graveyard. I see my great-grandparents, their graves are there on both sides, my mother and my dad's side. And this is the only place to me that was home. So realizing that, David and I spoke, and I said, this is not acceptable. I did realize that many other of my cousins had been through the same thing. And I don't know if they ever really attempted to change the Indian Act. Now, we're talking about this piece of legislation that is still here. It's called the Indian Act. But the particular section that affected me at the time, Section 12.1b, has been removed, thank goodness. But, and this is what my friends, Sharon and Pamela, will be talking about, that it is changing gradually. But can you believe it's taken 50 years to reach this point, and we still haven't been able to get rid of all the discrimination, the gender bias, the racism, really, because what these particular sections are trying to do is get rid of us as people. But we are stubborn. And I used to hear people say, Anishinaabe women, number one, they're stubborn. Number two, they will never forget. So I guess this is how it applies to us. And so going back, for those of you, some of you I know have heard my personal story and why it took so long. But for those who haven't, just to share with you, in 1970, after I received that notice and went to my friend at the time, well, he still is my friend, Clayton Ruby, who was a lawyer, young lawyer, and said to him, what can we do about this? And he said, well, you have one day if you want to do something. So one day he appealed it. And that set this whole case rolling that ended up being the Laval case at the Supreme Court. We lost at the county court. Very racist, obviously. This is where it really disturbed me that our justice system could be so discriminatory and racist, because the judge at the county court said, well, we know what Indian women are like. We know what Indian reserves are like. And you should be glad that a white man married you. And this is in our halls of justice, our courts of justice, I should say. At the next level, the Federal Court of Appeal, we won 3 judges, they said, discriminatory. And then in 1973, at the Supreme Court of Canada, 9 judges, all old elderly men, they did not recognize that particular section as being discriminatory, because they said I was treated like all the other Anishinaabe women in my situation. So obviously not discriminatory. And so this is the kind of discrimination that we've had to deal with. And then as Anishinaabe women, as a status woman, I lost my status, and therefore my children were not eligible. And thank goodness it's not that way today, but nevertheless, it is still discriminatory, and you will be hearing about that. But But I guess what I would like to say is that if it took this long to make these changes, what about all those others? And this is just in our recognition, you know, of who we are. We are a strong nation of people. We have our language. We have some land left. We have our own sense of governments, and we have our culture. And we should be able to retain that nationality called Anishinaabeg, the Anishinaabeg Nation. Well, I'm talking about Ontario. But if we go right across Canada, many of our people feel the same. And I know in Quebec that you have so many nations there, and they have that connection to the land. But here we're still dealing with our resources. We've been able to make changes with our recognition, with our status. But what about the resources right now? The big dilemma, and this is International Water Recognition Day, and my dear friend who's now gone into the spirit world, Josephine Mandaman, worried and did try to do so much to protect our water, to make it viable and healthy. Water is a living entity, and it's been given to us for our health, for the health of our communities, the health of our people, and for future generations. And she worked really hard. And we still haven't been able to do that much, but maybe collectively, as I said, we are stubborn and we will not forget. So we are at the point. I did get my 61A status back. And as I said, it took 50 years. And Sharon has been making changes for my children and grandchildren. And hopefully, we will not have to deal with this kind of issue anymore. And I give thanks to the Creator that I've been able to see these changes within my community, to see so many young people there, and they're proud of who they are, and they want to learn the language, and they're recognizing our leadership, and especially the role of women within our community. And that is so important. So it's going to be up to us as Anishinaabe women, Anishinaabe Kwek, we say, to continue to speak out, to continue to strive for our role as women within our nations, and to do whatever we can. And I am counting on all the younger women within our nations. Younger women, I mean Sharon, I mean Pam, and my daughter, Dawn Wabmimi, who's also president of the Ontario Native Women's Association. And my granddaughter is now part, she's on the board as well. But this is our role. We follow in the footsteps of our grandmothers, our aunties, and the women within our community. And within my clan, which is the Bird Clan, it's the Black Hawk Clan. This is our role, is to provide that leadership in terms of making change within our community. So I think I've been speaking too long. Someone was supposed to remind me, but I'll just say miigwech, and if anyone has a question about any of the events I've been through, be more than glad to answer as best I can. Aha, miigwech, give us in the wake.
Miigwech, merci. Merci, Madame Corbière-Lavelle. Alors maintenant, je vous présente notre deuxième panéliste. Il s'agit de Sharon McCover. Alors, Sharon McCover est une femme des Premières Nations, membre de la bande autochtone de Lower Nicolas. Elle est également une avocate reconnue, non seulement pour son excellence en enseignement au Nicola Valley Institute of Technology à Mérite en Colombie-Britannique, mais aussi par la gouvernance générale du Canada, par la gouverneure générale du Canada, pardon, pour sa bataille de 30 ans pour l'égalité pour les femmes autochtones. Alors, Madame Sharon McCower, à vous la parole.
Okay, thank you. And thank you, Vivian, for inviting me to be part of this today. I'm honored to be here and I'm happy to tell you a little of what I know. I also want to acknowledge that there are many of us that have been acting and fighting for a long time to get all of these inequalities out of the law. Now, how do we get it out of people's mind? I'm not sure. But if we can get it out of the law, that's a big step. I also want to acknowledge the women that some of the women that went before me. They won't be all of them. Mary Two Axe Early, Jenny Margetts, Nellie Carlson, and of course Jeanette, who started challenging the government. And then there's Sandra Lovelace, but for all of the work that went ahead of us, we wouldn't have been able to move forward like we did. So I want to make sure that I acknowledge those women and the others that fought hard, and many of them died without being able to take their rightful place in their communities. I also wanted to say that it's been 153 years since that first piece of legislation happened and gave the authority of Indian and land reserved for Indians to the federal government. And over the years, there are numerous Indian acts that have happened over and over and over again. And it had up until the 1950s, it had a common theme. It actually took all rights away from Indians. In the Indian Act, in its various formation over the years, there was a word called person. You're a person. And at law or in law, person means that you're able to look after yourself. You're able to make decisions for yourself. And if you want to sue somebody, you can sue somebody. So people under the age of majority, usually under the age of 18, are not persons because they can't sue without somebody standing in their place to help them. But the word persons in the Indian Act, the definition was anyone other than an Indian. So we were not persons, and some of us were born before it would change. So we were born without being recognized as a person. And so the law over the years has done various things. As Jeanette had explained, well, if you're an Indian woman who's recognized by the government, that's what status is. They recognize, if you're recognized by the government, and then you married a man that was not recognized, they immediately took away your recognition. Your status was gone. You weren't allowed to do a whole lot of things like eat your family's food if it was caught under their Aboriginal right, or be able to live with them on the land. So it's been all, and there's variations throughout the years. That one was the big one. It didn't change in 1985 when it was supposed to change, because the equality rights of the charter kicked in. They changed it, but really marginally. And so that was Jeanette sued under the old act. I sued under the new act, and was marginally successful. Women who married out got back their status in 1985, and their first generation children did. And I challenged that because my children weren't eligible to be registered. So I challenged it, started in 1989, got into court in 2006, got a decision in 2007, appealed. It was appealed and it was appealed. And the last appeal was in 2000, and we got a decision, and the government was forced to change the law, and they did change it effective 2011, January 2011. They put into place the grandchildren. My grandchildren were then eligible. And we continued the fight. You know, they say, okay, and we're back to where we, well, sort of back to where we should have been. Let's continue on, because there were the men's descendants that were born before April the 17th, 1985, had full status. That meant that they could pass it on regardless of who the partner was. And we could not. And as Jeanette said, she's a 61A now. Well, we weren't 61As. We were relegated to another section, 61C, and that gave us the ability to only pass it down to our grandchildren's generation. So many of us in the room here, four of us anyway, have been warriors getting after the government, going to the United Nations, going to the Inter-American Commission on Human Rights, getting those outside bodies to tell Canada, Canada, you're not living up to your convention. Canada, you're discriminating against Indigenous women. Canada, because the discrimination in the Indian Act, you've got hundreds of missing and murdered Indigenous women. And that's because of that discrimination in the Indian Act. And we're really a pain to the government. They did, every time anything came up around this legislation, we were there. The four of us here were there telling the government, you've got it, you're discriminating, you've got to do it. And finally, on August the 15th, 2019, which was not all that long ago, a year and a half ago, they changed the law. So anybody who was born, and this is the important part, anyone who was born before April the 17th, 1985, and you're a descendant from a woman who had been married out at one point, you get to have full status. No second generation cut off in that regard. And so there are pieces in the Indian Act that are still discriminatory, but those of you who are a descendant of a woman who married out, and if you're born before April the 17th, 1985, you've got to go and get your status upgraded, because that will mean your children, and if your children were born before April the 17th, 1985, they get full status and they can pass it down another generation. So part of what we wanted to do with this webinar is to let you know there are changes to the Indian Act. And if any of you out there are interested, or you know that you've got an ancestor that married out, a lot of the Métis people, well, if they had a grandmother that married out, a great-grandmother that married out, or great-great-great-grandmother who married out, they're eligible for status, and they should be thinking about it. So, you know, there's a lot of things that we can talk about, but what we wanted you to know, that there's a good chance that if you have you're a descendant from a woman who married out, married a non-Indian woman or man and lost her status, there's a good chance that you're eligible for status. And we want you, we that have been fighting, want you to go and do that. We want you to get your status. We want you to get recognized. And it's a birthright. It's not something that the government gives you. You were born with this right. And the only thing that we've done over the years is we've made the government recognize that you have that right. So we really want you to go and get the information you need to get yourself recognized and officially join us. I know that even though you might not have status, that doesn't mean that you're not part of us, but we would really like you to get recognized and start exercising those rights that you have as a status person. You've got, rights to to go back onto your land. You've got rights to get medical and dental, education, all of that. And those are birthrights. Those are the rights that we got as a result of the government taking the land. That, you know, it's not a taxpayer's burden. They're making money off every piece of land that they've taken from us. We're not getting any of it. And they're paying us back by giving us a few benefits when we're recognized. So that's it.
Me revoilà au micro. J'espère que vous avez apprécié le reportage. Évidemment, vous pouvez aller le télécharger, en fait, le consulter sur YouTube. Je voulais vous signaler qu'aujourd'hui, le 25 novembre, se tient la journée internationale pour l'élimination de la violence à l'égard des femmes, donc entre le 25 novembre et le 10 décembre. Au Québec, c'est précisément entre le 25 novembre et le 6 décembre. Le 6 décembre, on se rappelle des événements survenus à la Polytechnique en 1989, où 14 jeunes femmes ont été assassinées simplement parce qu'elles étaient des femmes. Donc, vous pouvez consulter le site du gouvernement du Québec. Vous n'avez qu'à taper « Journée d'action contre la violence faite aux femmes ». Et ce qu'on peut dire, c'est que depuis 1991, du 25 novembre au 10 décembre, des hommes et des femmes de partout dans le monde unissent leur voix pour dénoncer des actes de violence envers les femmes. Ces deux dates ont été retenues dans le but de lier de façon symbolique la violence faite aux femmes et les droits humains. Donc, on a le 25 novembre qui a été la journée là, proclamée par les grandes instances internationales. Et on a le 10 décembre qui est la journée des droits de l'homme, date d'anniversaire de la signature de la Déclaration universelle des droits de l'homme en 1948. Rappelons qu'en 1999, l'Assemblée générale des Nations unies proclamait, le 25 novembre comme étant la journée internationale pour l'élimination de la violence à l'égard des femmes. Et pour quelle raison? Pour honorer la mémoire de Maria Teresa Minerva et Patria Mirabal, trois sœurs de la République dominicaine, ferventes militantes pour la liberté, brutalement assassinées en 1960 sur les ordres du chef de l'État Rafael Leónidas Trujillo. Et donc le Québec également, donc le 25 novembre, souligne les journées internationales pour l'élimination donc de la violence à l'égard des femmes, et puis donc jusqu'au 6 décembre. Et donc voilà, c'est une façon également de souligner, donc voilà, c'est de rappeler donc ces quatre femmes, le meurtre de ces 14 femmes en fait à la Polytechnique. Que la Commission des droits de la personne, je trouvais pertinent qu'elle se positionnait contre le gouvernement quand il était question donc la situation du traitement des peuples autochtones, communauté autochtone au Québec, et également donc on a un organisme indépendant au Québec, puis c'est intéressant donc de consulter en fait les différentes publications pour comprendre au fond que voilà qu'il y a des organismes qui affirment clairement que ben, il y a peut-être des façons de faire des actions gouvernementales qui valent la peine d'être revues. Donc, c'est important de relire les publications. Puis également, le Protecteur du citoyen, qui est un organisme indépendant également, indépendant et impartial, donc comme la commission qui ne relève pas du gouvernement, puis qui se positionne vraiment contre les actions, qui tente de faire un peu le ménage, là, si je pourrais dire, dans la façon de gérer, là, dans les faits, ouais, dans la façon de gérer là, du gouvernement. Puis, vous verrez la protectrice soin, qui est la responsable en fait, de l'organisme, Mme Marie Rinfray, parlait là, du fait ben, je sais pas, du, la situation des infirmières. On en parle beaucoup à travers l'actualité en ce moment. Puis, ce qu'on comprend, ce qu'elle dénonce, c'est que ben, à l'époque, on ne remonte pas nécessairement à 50 ans. donc peut-être 10-15 ans, autour de ça. Voilà, il y a eu des coupures massives dans le système de santé, puis c'est entre autres des coupures qui font qu'on a aujourd'hui une pénurie de main-d'œuvre, puis une pénurie également. Ça a surtout été dénoncé lorsqu'il y a eu l'implosion du COVID dans les CHSLD où finalement il n'y avait plus personne pour traiter les patients. Donc voilà, donc on comprend que voilà, il y a des organisations indépendantes, c'est important de lire aussi, puis voilà, puis de comprendre, Donc oui, le gouvernement n'est pas toujours. Voilà, on peut dénoncer les actions du gouvernement. Puis voilà. Et je voulais vous indiquer quoi également. Donc, lisez les publications de la Commission des droits de la personne, du protecteur du citoyen. Puis voilà. Puis mais, après, ben, est-ce qu'il faut se mobiliser si on juge que des situations d'injustice vécues là? Pourquoi pas? Donc, je vous souhaite une belle fin de journée. Je vous rappelle que si vous voulez, voilà, qu'on aborde des sujets particuliers, si vous avez, voilà, des éléments ou ce que vous, peu importe ce que vous avez à dire en lien avec l'émission, contactez-nous au département des nouvelles. Donc, 514-448-4041, poste 6788. 514-448-4041, poste 6788. Par courriel également, nous, à commercial, ckut.ca. Vous pouvez également nous rejoindre sur les réseaux sociaux, Twitter et Facebook. Et puis, comme à l'habitude, vous savez que j'effectue du bénévolat au Centre des travailleuses et travailleurs immigrants. Et puis, au niveau du centre, on a l'Association des travailleurs et travailleuses étrangers temporaires et travailleuses et travailleurs d'agences de placement. Et donc, si vous vivez une situation particulière au travail, une situation difficile, et puis vous avez le goût de dénoncer cette situation, contactez le centre 514-342-2111, 514-342-2111. Vous pouvez également contacter, si vous voulez dénoncer, donc contacter la commission des droits, des normes de l'équité, de la santé et sécurité, si on parle d'une question de normes de travail ou de santé et sécurité, puis même en matière d'équité salariale. Et donc, je vous rappelle une dernière fois, les 25 ans de la loi sur l'équité salariale, que la loi vous permet d'être rémunéré à votre pleine valeur. Et puis, surtout pour les travailleuses ici d'immigration, c'est important de se mobiliser, c'est important de faire valoir nos droits parce que ben, c'est tellement facile pour un employeur, parce que nous sommes issus bon, de l'immigration et nous appartenons à des groupes cibles. C'est tellement facile donc, pour l'employeur donc, voilà, de décider de faire valoir son rapport de force, puis voilà, de décider de violer un de vos droits. Qui sont des droits fondamentaux. L'équité salariale est un droit fondamental, un droit de l'homme. Donc, nous avons tous, travailleuses, travailleurs, issus d'immigration ou pas, accès donc, à ces droits de l'homme, à l'équité salariale. Donc, voilà, je vous souhaite une belle fin de journée à nouveau. Et puis, on se retrouve le mois prochain, juste avant Noël. Est-ce que ça sera juste avant Noël? Je vérifie rapidement les dates. Donc, on se retrouve le mois prochain. Je bégaye un peu aujourd'hui. Donc, on se retrouve le mois prochain, le 23 décembre. Donc, juste avant Noël. Donc, voilà. Bonne fin de journée.
Le Prison Radio Show est une émission radio avec des nouvelles pour les prisonnières et leurs alliés et familles. L'émission cherche à confronter l'invisibilité des prisons et la lutte des prisonnières en se concentrant sur les racines de l'incarcération, de la police et de la criminalisation. Nous sommes dédiés à des programmes qui collaborent directement avec des personnes actuellement incarcérées. Dans cet esprit, nous aimerions vous faire savoir qu'on a une ligne téléphonique pour les prisonnières et leurs amis et familles. Vous pouvez nous appeler Collecte de la prison de Bordeaux et de la prison Rivière-des-Prairies en composant le numéro 514-876-3748. Encore une fois, c'est 514-876-3748. 1-866-376-3748 pour les appels collect. On a aussi un numéro normal qui est 438-337-8423. N'hésitez pas à appeler ce numéro et à nous laisser un message avec des nouvelles à partager sur l'émission ou un message audio pour vos proches à l'intérieur.
Directions on how to use your radio. Find the power button. Turn it to on. Turn the knob to CKUT 90.3 FM. Relax and enjoy.
Polo and Pan, Cyclorama Tour. Polo and Pan. December 11th, Place Belle. One night only in Montreal. Get tickets now at eventco.ca. Polo and Pan, Cyclorama Tour.
Stand with Wet'suwet'en. McGill University must divest from TC Energy. A community campus action on Wednesday, December 1st, taking place just inside the Milton Gates at James Square. With poetry, speeches, and music, McGill University invests over $4.7 million into TC Energy Corporation, the company that is building the Coastal GasLink pipeline on Indigenous Wet'suwet'en lands. Now is the time for McGill University to divest from TC Energy. Join us for a campus community action at 5:30 on Wednesday, December 1st. This event is co-hosted by Divest McGill, the Indigenous Student Alliance, and is co-presented by CKUT Radio. See you there.
Good evening. It's 6 o'clock. You're listening to Upstage on CKUT 90.3 FM and at CKUT.ca, the show about theater on the radio. From drama to musicals to burlesque to comedy and everything in between, professional student and community productions in and around Montreal, Chipchague.